vous souvenez peut-être de cette œuvre de Banksy, adjugée il y a 3 ans pour près €1 200 000 et qui s'était autodétruite de façon assez spectaculaire dans la salle de vente, une minute après avoir été vendue parce qu'un broyeur était dissimulé à l'intérieur. Bah, figurez-vous que cette toile en lambeaux va être remise en vente en octobre à Londres, 4 à 6 fois plus cher. Et même si on en fait non plus une toile, mais une performance historique, une œuvre ô combien politique, même si on vante sa technique, son caractère unique, bah, je vous garantis que tout le monde reprendra cet éternel débat qui porte sur ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art. Et à juste titre, parce que c'est cela, entre autres choses, que l'artiste interrogeait. Et c'est une question passionnante, parce qu'à chaque fois qu'on essaie d'y répondre, on est très embêté. Moi, ce sont mes questions préférées. Quelle est la valeur d'une œuvre d'art? Mais d'abord, de quelle valeur est-ce qu'on parle? De la valeur marchande, de la valeur esthétique, un peu plus difficile à déterminer, vous en conviendrez, ou de la valeur affective, qui correspond à toutes ces œuvres dont on dit parfois qu'elles n'ont pas de prix? Qu'est-ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art? C'est une belle question, parce qu'elle n'a pas de sens, ou plutôt, elle en a tellement qu'il est presque absurde de la poser. Ou alors, il faudrait entendre la valeur comme quelque chose qui n'est pas fixe, mais fluide et fluctuant tout le temps. Et la réponse magnifique, ce serait, ça dépend. Ça dépend de quoi on parle, et puis ça dépend du moment. Et surtout, ça dépend pour qui. Après tout, vous connaissez le dicton. Par cœur, nous n'avons pas les mêmes valeurs.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quelles sont donc les valeurs de mon invité d'aujourd'hui? Longtemps considéré comme l'enfant terrible de l'art contemporain, maître de la provocation avec ses animaux dans le formol et ses vanités en diamant, il continue de faire mouche à travers des œuvres qui interrogent plus que jamais le passage du temps et le désir d'immortalité. Cherry Blossoms, sa première grande exposition en France, est actuellement à la Fondation Cartier. Un déluge de points de couleurs pour une célébration de l'éphémère. Bonjour, Damien Hirst.
Good morning, bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et qu'est-ce qui fait pour vous, en tant qu'artiste, mais aussi en tant que collectionneur, la valeur d'une œuvre d'art?
Je crois que cette valeur, elle est changeante. J'ai souvent dit qu'un artiste crée pour un public qui n'est pas encore né. Si vous spéculez sur le sens ou la valeur qu'aura une œuvre dans les années à venir, vous n'avez pas de prise sur ce que les gens penseront alors. Alors c'est compliqué. C'est changeant, la valeur de l'art.
C'est intéressant, c'est aussi l'idée qu'on se fait de la postérité, à bien vous entendre au fond. Et qu'est-ce qui fait qu'une œuvre reste, qu'elle devient éternelle?
Pour parler de l'éternité de l'art, il faut remonter aux hommes des cavernes, à la grotte de Lascaux. Il y a un lien que l'on ressent très fort avec l'art du passé. Et pour moi, c'est ce que l'art apporte de plus fort. On peut apprendre des livres, on peut étudier la politique, l'histoire, la médecine, la philosophie, la psychologie, tout ça. Mais un monde sans art, c'est impossible. Je me demande ce que c'était que la vie il y a 200-300 ans avant la télé. Les gens étaient grosso modo pareils que nous. Ils avaient les mêmes problèmes. Mais c'est difficile de s'imaginer. En regardant les œuvres de l'époque, on se rend compte. Et moi, j'apprends plus sur une époque par ses œuvres qu'en étudiant son histoire.
Mais l'éternité, l'immortalité, Damien Hirst, quelle visée, quel objectif, quelle aspiration est-ce que ça a pu être pour vous?
Moi, je suis à la recherche de déclics universels, de moyens de communiquer avec les gens qui vivent aujourd'hui, mais aussi de communiquer avec les gens dans l'avenir. Je m'interroge sur ce que sera le monde. Et ce que j'adore dans l'art, c'est sa capacité à représenter son époque. Si je regarde Warhol, par exemple, je vois ces bouteilles de coca. Je regarde un Bonnard et je vois ce pointillisme et cette couleur, et sa compagne dans sa baignoire, son amour pour les animaux. On comprend ce que c'était que vivre à l'époque. Mais ce que je cherche, moi, c'est un déclic qui soit universel, que quelque chose qui n'a peut-être aucune importance aujourd'hui, mais qui sera essentiel aux générations futures pour se représenter l'époque, mieux que par tout autre moyen.
C'est comme ça qu'on fait pour marquer son époque?
Oui, je crois. En quelque sorte, les tableaux sont comme des traces de pas dans la neige. Mes enfants, mes petits-enfants sauront qui je suis, peut-être même, si j'ai de la chance, mes arrière-petits-enfants. Mais d'ici là, ils auront tout oublié de nous, à moins qu'on soit Aristote.
Alors c'est intéressant, par quoi pourrait passer une révolution dans le monde de l'art? Est-ce que tout n'a pas déjà été fait?
Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la force du présent. Beaucoup de choses ont été créées par le passé, c'est très difficile d'être original. Mais la fusion de nombreux ingrédients épars aujourd'hui est toujours unique et toujours singulière. Quand on revient sur les œuvres du passé, on se rend bien compte de ce que c'était que de vivre à l'époque. Et ça marche aussi pour le présent.
Et c'est quelque quelque chose que vous interrogez tout le temps, Damien Hirst. Il y a quelques mois, vous avez annoncé, par exemple, la création de 10 000 NFT. Une NFT, c'est une sorte de monnaie qui permet de devenir propriétaire d'une œuvre numérique. Quel avenir offre le numérique aux artistes ?
Les NFT sont là pour de bon, je crois. Ça m'enthousiasme, parce qu'à partir du moment où vous pouvez posséder des objets virtuels, cette virtualité devient un monde réel. Je me dispute avec mes gosses depuis 10 ans, en leur disant qu'on n'achète pas des biens réels avec de l'argent virtuel, parce qu'ils dépensent tout leur fric sur Clash of Clans ou Habbo Hotel, ce genre de jeux vidéo qui font fortune en réalité virtuelle. Mais aujourd'hui, le monde réel se met à la page. Ma logique, elle était toujours mise à mal avec mes gosses, et je m'en rends compte aujourd'hui. Les NFT, pour les artistes, c'est un nouveau moyen d'expression, comme une page blanche.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'évolution de l'art, depuis la matière, quelque chose qu'on peut toucher, sentir, qui évolue aussi avec le temps, quelque chose de fragile, vers tout autre chose, de beaucoup plus évanescent.
Pour moi, l'art, c'est toujours une question de magie. Vous parliez de son immortalité, mais je le vois aussi comme une somme mathématique. J'aime beaucoup la science. Dans mon travail, je convoque souvent la médecine. Mais j'aime l'idée que 1 plus 1 égale 3, ou plus. C'est pour ça que j'aime l'art, qui permet l'impossible, la magie, l'alchimie, avec les éléments du passé.
Et pourtant, Damien Hirst, les tableaux de la série Cherry Blossom que vous présentez en ce moment à la Fondation Cartier à Paris, ils témoignent de votre part, après des années d'œuvres conceptuelles, d'un besoin de renouer avec la matière, de revenir aux fondamentaux de la peinture. Pour quelle raison ?
Oui, j'aime la peinture, mais j'aime les livres aussi. Et lire un livre quand on est aux toilettes, c'est plus compliqué quand c'est sur une liseuse ou sur un iPad. Tout le monde a peur de mourir. Depuis que je travaille, j'ai toujours entendu « La peinture est morte, vive la peinture !» La peinture est morte, vive la peinture. Ça finit par ne plus avoir de sens. Et ça remonte aux hommes des cavernes. On a trouvé ce moyen pour décorer les parois, pour créer des images qui mettent un peu de lumière dans le quotidien, pour donner du sens à la vie. Et pour moi, la peinture y arrive mieux que les autres arts. Et puis, il y a de la magie dans la peinture. Prenez mon crâne incrusté de diamants. Il a quelque chose de magique, il est composé d'éléments magiques. Mais il y a une vraie tendance chez les gens à le réduire à ses ingrédients. Combien a coûté le platine? Combien a coûté les diamants? Combien ça coûte tout ça? Combien vous pouvez le vendre pour le double? Parler en ces termes de valeur, les gens n'aiment pas ça du tout. Alors qu'en peinture, personne ne regarde la Joconde en disant combien ça a coûté la toile, combien ça a coûté la peinture. À peine 200 livres peut-être, alors comment ça fait que ça n'a pas de prix? Tout le monde admet que la peinture, contrairement au reste, peut ne pas avoir de prix et que son vrai coût de fabrication n'a rien à voir.
Qu'est-ce que vous ressentez, vous, quand vous peignez?
Ce que je préfère dans la peinture, c'est quand je me perds dedans. Pour ces cerisiers en fleurs, avec toute l'anxiété du confinement, je me suis retrouvé dans mon atelier, seul face à la toile. C'était de grand format, ça me demanderait beaucoup d'énergie, je me suis mis en condition. Et puis je me suis lancé à corps perdu là-dedans, dans des formats et à une échelle qui permettront aux spectateurs de plonger, eux aussi, j'espère.
Et ce qui est intéressant, c'est que la peinture, elle est entrée très tôt dans votre vie, Damien, par l'intermédiaire de votre mère. Quand vous pensez au tableau de votre mère, quelles images vous reviennent immédiatement en mémoire ?
Le premier tableau de ma mère que j'ai aimé, ce sont des cerisiers en fleurs, avec des taches de couleur aussi, mais beaucoup plus petits, sur un petit panneau de fibre de bois. Je me souviens du choc que j'ai ressenti. Ça semblait si facile et le résultat était épatant. Je me suis dit, waouh, ça ressemble vraiment à des cerisiers en fleurs, mais ça n'en est pas. Je devais avoir 4-5 ans. Je crois que c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la magie. On utilise plein d'ingrédients et on en fait quelque chose de plus. Aussi, je n'avais pas le droit de toucher le tableau. Ça pouvait tout saloper, après il fallait utiliser du diluant pour nettoyer. Et moi j'en avais envie, puisque je n'avais pas le droit. Aujourd'hui je suis assez grand pour toucher à la peinture à l'huile et j'adore ça.
Mais l'art a toujours quelque chose à voir avec l'interdit pour vous.
Je ne sais pas trop ce que je lui trouve. Ce que j'aime le plus, c'est l'illusion. Comme une fenêtre en trompe-l'œil. Il faut y croire, on a besoin de cet artifice. Tout le monde sait qu'un tableau, c'est qu'une planche de bois ou une toile tendue. C'est pas une fenêtre. Mais on accepte d'y voir une fenêtre. On y croit. C'est possible. On a besoin de cette illusion-là. La peinture, c'est peut-être le moyen le plus efficace pour révéler la vérité. Ce qui est incroyable quand on pense que ce n'est qu'une illusion.
C'est la question que j'allais vous poser. En fin de compte, ça tient à quoi la beauté d'une peinture, la beauté d'une toile? Damien Hirst.
À l'interruption. La beauté interrompt votre vie. Une fois que vous l'avez pris dans la figure, vous ne pouvez plus oublier le tableau. C'est comme si... C'est brutal, la peinture. C'est brutal. Dans la nature, vous regardez une fleur, vous la trouvez belle, vous pouvez l'accueillir ou pas à vous devoir. Mais un tableau, vous le regardez, il vous trouble parce qu'il glorifie, et puis vous tournez les talons. Et si vous y repensez encore 2 heures plus tard, 2 semaines ou 2 mois plus tard, 1 an après, c'est que c'est de la grande peinture.
L'artiste britannique Damien Hirst, invité de Boomerang ce matin pour son exposition à la Fondation Cartier et pour parler de peinture et d'art. L'art, quelle place avait-il chez vous ?
Beaucoup de gens autour de moi, quand j'étais gosse, disaient « Quand tu pourras faire de moi un portrait ressemblant, là tu seras un artiste. » L'art contemporain était moqué, l'art moderne. Je me souviens, on visitait l'école des Beaux-Arts avec mes copains, ils gribouillaient un truc sur un papier, ils disaient « Ah, c'est de l'art moderne !» Ça les faisait marrer, c'était jamais pris au sérieux. Tout le monde aimait l'art qui était ressemblant. Picasso était très méprisé. Picasso, ça terrifiait les gens avec ses yeux plaqués sur le côté du visage. J'ai pas ça.
Et pour autant, on l'a compris, votre mère peignait beaucoup. Dans quelle mesure est-ce qu'elle vous a encouragé à devenir artiste ?
Elle m'a toujours fait penser en grand. Elle me donnait plein de couleurs, de peinture, du papier. Si on n'avait pas de papier, elle peignait en blanc des pages de papier journal.
Alors vos premières œuvres, elles ressemblaient à quoi ?
Je crois qu'un de mes premiers dessins, c'est un portrait de moi qui fait une prière parce qu'on a été élevé dans la religion catholique. Aujourd'hui encore, je me souviens de comment la religion utilisait l'art pour diffuser ses idées.
Ça veut dire que les premières œuvres auxquelles vous ayez été confronté, Damien Hirst, c'était de l'art religieux ?
Oui, dans les livres, dans la Bible à l'école. Je me souviens des images sanglantes du Christ sur la croix, des flagellations. J'étais très attiré par la décollation de Jean-Baptiste. Ces images m'attiraient beaucoup, j'y revenais tout le temps. Je me souviens d'une fable sur un agneau avec le Christ. Et voyez ce que je fais aujourd'hui, l'imagerie religieuse, elle est bien là. Aujourd'hui, je crois plus trop en Dieu. Mais les images restent malgré moi.
Mais il en reste quoi, précisément, de cette brutalité, de cette souffrance, de ce goût pour l'exaltation du supplice dans votre art aujourd'hui ?
J'aime l'œuvre de Francis Bacon. C'est un artiste immense. Il exprimait la brutalité de la vie. Souvent, j'ai pensé à réaliser des versions tridimensionnelles de ces tableaux. Mais bon, j'ai tellement d'idées, je peux avoir tellement de personnalités en moi, toutes différentes.
C'est intéressant quand même que tout commence pour vous par l'art religieux, l'art au service de la religion, au service du culte. Aujourd'hui, que sert l'art ?
L'art a toujours été au service des gens. Il se fait récupérer par la pub, par la religion. Mais au bout du compte, l'art, c'est pour les gens. Les artistes, ce sont ceux qui tentent de vous donner des choses gratuitement, alors que la pub et la religion ne veulent que vous prendre votre fric.
Vous avez mentionné les livres tout à l'heure, et pas tellement les musées. C'est intéressant dans votre apprentissage des beaux-arts, Damien Hirst. Que comprend-on d'une œuvre quand on l'a pas en face de soi, quand on la voit sur un livre ?
C'est compliqué. La question de la taille de l'œuvre, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis ma jeunesse. J'ai toujours créé en sachant que l'œuvre doit arriver à fonctionner une fois réduite à petite échelle. Je pensais, quand j'aurai du succès, je réduirai mes tableaux à la taille d'un timbre-poste. Il fallait que je produise des œuvres qui puissent résister à la réduction.
Et quel lieu est-ce que c'est le musée pour vous, la galerie, vous qui depuis plusieurs années maintenant avez votre propre galerie d'exposition à Londres ?
Ouais, j'ai un musée à Londres. L'entrée est gratuite. Avec le confinement, j'ai montré que mon propre travail. Et 10 000 personnes seulement sont venues. C'est pas beaucoup sur toute la période. Mais sur Instagram, j'ai fait 3 millions de vues pour mes vidéos. C'est très étrange quand on y pense. Le rôle du musée a changé. Mais moi, je suis un vieux con. J'aime les grandes salles pleines de tableaux.
Mais c'est intéressant quand même, effectivement, de les voir en vrai. Parce que vos toiles, en l'occurrence, ici, Damien Hirst, elles sont monumentales. Je pense aussi à quelques-unes de vos dernières installations, Trésor de l'épave incroyable à la Fondation Pinault, ou encore à cette série de statues installées à Saint-Moritz en Suisse. Pour ce qui est de la peinture, qu'est-ce qui décide de la taille d'un tableau ?
Je pense en termes d'échelle plutôt que de taille, en fait. Il faut réfléchir au lieu où la toile va être exposée, à l'effet qu'elle produira, tout ça. Il faut voir ce qui fonctionne le mieux entre petit et grand. J'y ai longtemps réfléchi. Je pense souvent aux esquisses de Rembrandt, ces portraits ou autoportraits de très très petits formats. Ils sont minuscules, mais ils ont beaucoup d'ampleur. Et je cherche à atteindre la même chose en termes de format.
Les peintures que vous exposez actuellement à la Fondation Cartier, elles sont très grandes, elles représentent des cerisiers en fleurs, elles sont composées à partir de milliers de petits points de toutes les couleurs, à la manière des peintres pointillistes. Et ça ressemble quand même à une célébration de la couleur. Par quoi passe pour vous la maîtrise de la couleur, Damien Hirst?
Je ne sais pas si j'ai jamais maîtrisé la couleur. J'ai certainement une sensibilité à la couleur. Quand j'ai découvert Bonnard, ces couleurs résonnaient en moi. Je savais qu'il se passait là quelque chose que je ne ressentais pas chez d'autres peintres. J'adorais ça. À l'école des Beaux-Arts, la couleur, c'est devenu mon problème. Je m'en servais pour résoudre toutes mes questions formelles, ce qui rendait mon travail décoratif, très jetable, très kitsch. Mais j'adore la couleur. La lumière du soleil sur les fleurs, c'est ça que j'ai voulu montrer dans cette série sur les cerisiers.
Mais c'est dingue quand même quand on y pense, parce que ces tableaux, et c'était déjà le cas d'ailleurs dans la série Veil, on est quand même très loin des animaux plongés dans le formol que vous dévoiliez dans les années 90. On est loin du macabre ou des ténèbres. Quel serait pour vous le pouvoir de la couleur, Damien?
Avec ces cerisiers, je joue totalement et directement avec la couleur d'une façon très franche. Mais j'ai toujours fait ça dans mes œuvres précédentes. Dans mes armoires à pharmacie, c'est la couleur qui m'a attiré avant que cela devienne conceptuel. Et mes alignements de points colorés, c'est un système mathématique que j'ai créé pour jouer avec la couleur, même si le plaisir est peut-être moins visible que dans ces cerisiers.
On va reparler de pouvoir, de couleur, juste après Cyndi Lauper, quand même True Colors. En 1986, vous êtes sur France Inter. Avec Damien Hirst, vous écoutez Boomerang, évidemment.
True colors, true colors.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Alors, il est cette si singulière synthèse du bad boy et de Churchill, sans le chapeau et le cigare, le crâne dégarni, l'œil clair qui ne manque pas d'esprit, avec son débit à la mitraillette. On a toujours l'impression qu'il a une longueur d'avance, tout en cheveux bleus et pantalons roses, un petit peu comme une de ses toiles ce matin, l'artiste anglais Damien Hirst, invité de Boomerang, pour parler d'art, de provocation, mais surtout d'éphémère et du temps. Ce temps que vous ne cessez d'interroger œuvre après œuvre. Damien est à nouveau dans cette série exposée à la Fondation Cartier, Cherry Blossoms. Le temps, qu'est-ce que ça représente pour vous?
J'aime l'expression « nous sommes ici-bas pour du bon temps, mais pas pour longtemps ». C'est très difficile de comprendre comment fonctionne le temps. J'ai l'impression que, dans ce que je fais en ce moment, je m'intéresse à la collision du passé, du présent, de l'avenir. Ça se voit dans les cerisiers en fleurs. Il y a la mort, il y a les ténèbres, mais ils sont pleins de vie. C'est une profusion de fleurs. C'est aussi de courte durée. C'est un écho de notre vie.
En quelque sorte, si je vous comprends bien, le temps, c'est quand même quelque chose qui vous rapproche sans arrêt un peu plus de la mort. Ça vous fait peur, la mort?
Pas plus qu'à quelqu'un d'autre. On a tous peur de la mort. Mais on a surtout peur de l'inconnu, c'est très difficile de comprendre la mort. Ma mère m'a appris quand j'étais enfant qu'il faut affronter ce qu'on ne peut pas éviter. Et la mort, c'est bien quelque chose qu'on n'évite pas. Mais c'était tellement naturel qu'il doit bien y avoir un moyen normal de la regarder en face. Il y a une anxiété très occidentale vis-à-vis de la mort. J'ai une maison au Mexique et je trouve l'attitude vis-à-vis de la mort beaucoup plus saine là-bas. La mort, c'est leur mascotte. Ils la célèbrent. Ils font la fête dans les cimetières. Ils honorent les crânes. Alors que nous, on glisse ça sous le tapis. Et eux, ils avancent main dans la main avec la mort. C'est beaucoup mieux, j'essaie de faire ça. Naturellement, je crains la douleur, la perte. J'ai peur que mes enfants meurent. C'est pareil pour tout le monde.
Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Vous avez fini par le savoir, Damien Hirst, à force de l'interroger.
Ma citation préférée sur la mort, elle est de Francis Bacon. On lui demandait... Que voulez-vous qu'on fasse de vous après votre mort? Mettez-moi dans un sac poubelle, jetez-moi dans la rue et que les chiens me dévorent.
C'est la question que j'allais vous poser. Que devient notre corps?
Je ne sais pas. C'est compliqué. C'en est fini pour lui, je crois, et moi, ça me va très bien.
Et vous me voyez venir, évidemment. Je pense tout de suite à certaines de vos œuvres les plus connues, ces animaux morts, conservés dans des boîtes transparentes, pleines de formol à l'époque. À travers ce dispositif, qu'est-ce que vous essayez de dire? Quelle histoire est-ce que vous nous racontiez?
L'idée des animaux, au départ, c'était de faire un zoo de bêtes mortes. J'aimais pas les zoos. Je les adorais quand j'étais petit, et puis en emmenant mes gosses, je trouvais que les animaux étaient tristes, ils avaient l'air pas heureux, à tourner en rond dans leur cage. Cette idée très victorienne et arrogante d'aller capturer des animaux dans un but scientifique et pédagogique et de les amener à nous. Mais avec les émissions animalières, on n'a plus besoin de ça, c'est nul. Mon idée, c'était de faire un zoo d'animaux morts, où ils ne seraient pas tristes, et avec des animaux qu'on mange.
C'est une histoire de vie et de mort. Quand est-ce que vous vous sentez le plus vivant, vous?
J'ai arrêté de boire il y a 15 ans. Depuis, je me sens bien vivant. Avant, je me sentais vivant en picolant. Et puis, j'ai fini par me dégoûter quand je picolais trop. J'ai arrêté, je me suis senti mal pendant quelques années, je n'étais pas habitué. Et maintenant, quand je me réveille, le matin, je sens que j'aime la vie.
Et dans votre atelier, est-ce que vous vous sentez vivant?
Oui, bien sûr. Quand les idées viennent, j'aime créer. J'aime quand ça fonctionne bien. Les cerisiers en fleurs, c'était fantastique. Ils étaient si grands. J'étais plongé dedans. Pendant 3 ans, je me suis concentré sur quelque chose que je désirais et qui allait être exposé aussi.
Je vous pose la question de l'atelier parce que pendant de nombreuses années, vos œuvres étaient fabriquées par d'autres, à partir de vos idées, à partir de vos concepts. Vous ne mettiez donc pas nécessairement la main à la pâte, au fond. Qu'est-ce qui fait un artiste pour vous?
Cette question, elle revient souvent. Les gens pensent que créer, c'est forcément être seul. Je ne crois pas que ça a jamais été vraiment le cas. Vos idées, elles viennent vraiment de partout. Et pour moi, l'œuvre qui me convient, c'est celle qui, terminée, correspond exactement à ce que je voulais qu'elle soit, peu importe comment j'y suis arrivé.
Et quand est-ce que pour la première fois, est-ce que vous vous êtes senti artiste?
J'ai toujours aimé dessiner, peindre, mais je ne sais pas trop ce que c'est qu'un artiste. Je trouve que j'ai beaucoup de chance de gagner ma vie en créant, de pouvoir me rendre à mon atelier et de m'y mettre comme ça. Beaucoup de gens que j'ai connus, surtout dans mon enfance, ne gagnaient jamais d'argent en faisant ce qu'ils aimaient.
Qu'est-ce que vous attendez d'un artiste au fond, Damien Hirst? Et là, je m'adresse autant à l'artiste précisément que collectionneur, à l'amateur.
J'ai toujours pensé que les grandes œuvres, comme John Ruskin, je crois, l'a dit, sont celles qui sont le miroir de la vie. C'est le sentiment qu'elles doivent donner. Il y a des gens qui n'aiment pas l'art, vous savez, c'est étrange. J'ai croisé des collectionneurs qui disaient qu'ils n'aimaient pas ça. Je ne peux pas comprendre ce que ça veut dire. Un monde sans art, c'est quoi ? C'est un monde qui n'a pas de sens.
Et ça implique que cet art, il vous bouscule, qu'il vous provoque, qu'il vous choque.
Oui, l'art doit provoquer tout ça. Il doit glorifier la vie, il doit vous rendre heureux, il doit permettre de prendre du recul sur la vie avec une nouvelle énergie. Si t'es triste, il doit te rendre gay. Si t'es gay, il doit te mettre en garde. Et si t'es calme, il doit te mettre en colère. L'art doit être en conversation avec toi, comme une personne. Et je crois vraiment que l'amour relie les gens les uns aux autres et que l'art relie les gens à la vie.
Mais dans un monde où il n'y a plus vraiment de tabou, où les images, même les plus atroces, sont à disposition sur Internet partout, est-ce qu'il est encore possible de troubler, de choquer, de provoquer ?
Ah oui, je le crois, oui. Ça peut être troublant de voir un concombre placé au mauvais endroit. C'est pas seulement l'objet, c'est le contexte.
C'est la question que j'allais vous poser, qu'est-ce qui vous choque, vous ?
Il y a beaucoup de choses choquantes. Ce qui me choque, les égoïstes qui règnent sur le monde, ça me choque. Ça me choque de voir à quel point les gens se soucient peu de notre avenir. Mais l'art, c'est quelque chose de généreux. Tous mes artistes préférés, ce sont des gens généreux. Banksy, par exemple, il est fantastique, il crée dans la rue, il offre son travail aux gens et ça leur appartient. Quand il passe devant. L'art de Banksy, c'est de puiser dans l'intelligence des gens, c'est de leur faire confiance, c'est de leur dire « vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre ». Ce qui m'attriste, c'est quand les publicitaires, les gens de pouvoir, méprisent ceux qui travaillent, quand ils pensent qu'ils sont bêtes.
Est-ce qu'on peut être troublé ? Est-ce qu'on peut être choqué par la beauté ?
Bien sûr. Le soleil sur des fleurs, ça peut être bouleversant. En les découvrant, ça peut choquer. Il faut mettre des lunettes parfois quand on est au soleil. Et puis pas besoin de soleil finalement pour être aveuglé. Et on peut même être aveuglé par une pizza.
Mais quelles lunettes est-ce qu'il faut qu'on mette pour regarder vos cerisiers en fleurs, Damien Hirst ?
Des lunettes 3D.
Dans quelle mesure diriez-vous que le rôle de l'artiste, c'est peut-être ça, c'est peut-être de faire surgir la beauté, tout simplement.
Mais la beauté, elle est changeante. Le rôle de l'artiste, c'est de révéler la vérité. Et je ne sais pas, moi, ce qui est vrai, mais je sais ce qui ne l'est pas. Parfois, je me dis que la vérité n'existe même peut-être pas, mais j'ai quand même envie de la révéler, quelle qu'elle soit. Parfois, il faut des mensonges pour révéler la vérité. Et dans mon exposition « Trésor de l'épave de l'incroyable », j'avais besoin d'une fiction, d'une histoire fausse, pour révéler la vérité de ces histoires fausses. J'avais dit à l'époque, la vérité se trouve quelque part entre le mensonge et la vérité. Et les artistes, ils sont là pour révéler cette vérité-là. Mais les artistes, ils sont surtout là pour révéler ce que vous avez déjà en vous et que vous ignorez. Quelque chose d'important.
Et aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, où est-ce que vous la trouvez, la beauté ?
La beauté, c'est éphémère. Je pense plus à l'espoir qu'à la beauté. La beauté, c'est superficiel. La beauté, j'y crois pas. Je crois en la vérité, en l'espoir. Je crois que le bien vaincra le mal. Mais il faut qu'on se rende compte que ça ne se fera pas sans effort. Le bien ne triomphe pas sans effort. Je suis assez romantique là-dessus. Mais la beauté, j'y crois pas.
Merci infiniment, Damien Hirst, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, Harold Manning, l'enfant terrible de la trad. Je rappelle que Cherry Blossoms, c'est à l'espace Jean Nouvel de la Fondation Cartier jusqu'au 2 janvier et que ça vaut le coup d'œil tout de suite. Les médias, Sonia De Villers, juste après ça.
Thank you, man.
Maintenant, je veux retrouver le calme et la paix dans mon âme.
9h40 sur France Inter, Nouvelle-Orléans, la femme et tout de suite les médias avec Sonia De Villers. L'instant M, ça va Sonia ?
Mais ça va Augustin. Allez, salut.